On a chanté tout à l'heure, tu rêvais, en parlant de Dieu, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. J'ai noté ça. Et aujourd'hui, on va justement parler de ce jour. Avant que tu rêvais. Eh bien, Dieu ne rêvait pas. C'était sûrement une licence poétique de l'auteur dans cette, mais c'est pas ce dont quoi Dieu rêvait. Dieu était déjà à l'action. Alors, je ne vais pas vous surprendre pour ceux qui étaient là il y a quelques mois en arrière. Je continue dans Éphésiens et actuellement, c'est Éphésiens 1, versets 3 à 14. Tu me l'as mis ou tu ne me l'as pas mis ? Voilà, merci. Donc, le titre de ce moment, c'est « Élu, racheté et scellé au pluriel », comme vous avez pu le voir. Et donc, je vous lis le texte. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence pour nous faire connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, ça c'est pour vous là maintenant, hein. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. La dernière fois, nous avons regardé juste le passage où Paul... J'ai oublié de vous passer tout le texte. Non, je l'ai fait. Le passage où Paul saluait les Éphésiens. Et d'habitude, quand il salue les Éphésiens, enfin, quand il salue quelqu'un, Paul continue en disant « Oh, je remercie le Seigneur parce que j'ai trouvé en vous. » Il n'y a que les Galates, eux, il faut dire, ils ne s'étaient pas bien tenus, donc il les sabre dès le commencement, mais... À tout le monde, il dit « Ah, je bénis Dieu parce que vous êtes comme ceci. » Non, et là, Paul s'arrête et il éclate dans un chant de louange. Hein? Et un chant de louange, ici, j'ai de la ponctuation, il y a des phrases. En grec, c'est une phrase. Je ne sais pas comment on faisait pour la prononcer quand on était... Ah, on a reçu une lettre de Paul, je vous la lis. Il fallait avoir du souffle. Hein? Voilà. Et donc, ce texte, encore plus que tous les autres, doit être pris dans son contexte. On ne peut pas dire, oh, je prends le premier verset, puis je vais en faire quelque chose qui va être une bénédiction pour moi. Non, c'est tout le texte qu'on prend ou rien. Donc ici, malgré tout, j'ai coupé ça en plusieurs parties, et on trouve au départ... comme une introduction. Cette introduction, c'est « Dieu nous a bénis ». Donc, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Comme je vous l'ai dit, Paul s'est interrompu, il s'est interrompu et il fait des jeux de mots, béni, bénédiction. Alors, je bénis, je suis béni, il fait des jeux de mots pour nous dire que, premièrement, nous bénissons Dieu, nous l'adorons, nous le louons. Paul, il est dans un état presque d'extase. Il est devant quelque chose qui le « je bénis Dieu, nous bénissons Dieu ». Et là, je vous rappelle un enseignement d'Élie sur le Notre Père. Vous vous rappelez ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit « c'est nous, c'est pas je, c'est pas mon Père, c'est notre Père, nous ». Eh bien, je vous renvoie à cet enseignement, donc vous chercherez, comme ça vous regardez tous les enseignements depuis 6 mois, vous les réécoutez, ça peut faire que du bien. Et là aussi, c'est à nous que Paul parle. Et nous bénissons Dieu, mais pourquoi le bénissons Dieu ? Le bénissons-nous ? Il nous a bénis, c'est-à-dire il nous a fait bénéficier d'une grâce. Dieu nous a fait bénéficier d'une grâce et remarquez une chose, c'est pas à venir, c'est déjà fait. Dieu nous a bénis, c'est pas qu'il va nous bénir, il nous a bénis. Et il nous a bénis et de quoi ? Alors s'il vous manque des bénédictions, regardez-la, de toute bénédiction, il en manque aucune. La bénédiction, la grâce, les dons que Dieu a faits sont donnés d'une manière surabondante. Et quelles sont ces bénédictions ? Deux choses remarquables, elles sont spirituelles. Elles nous parlent de notre problème avec Dieu. C'est comme ça que je traduis spirituel. C'est-à-dire que on est séparé de Dieu. Hein ? Chaque homme qui naît, chaque enfant qui est conçu est conçu séparé de Dieu. C'est comme ça, on a un problème avec Dieu, le péché. Donc si les bénédictions sont spirituelles, c'est qu'elles ont un rapport avec cela. Deuxièmement, ces bénédictions, elles ont un lieu où elles vont se manifester, les lieux célestes. Alors, il ne s'agit pas du ciel astronomique ou du ciel atmosphérique, il s'agit bien de la demeure de Dieu, un endroit où tout est parfait. Ces bénédictions sont tellement parfaites qu'elles ne peuvent pas s'accomplir parfaitement ici. Pourquoi ? Ici, sur cette terre, le péché a tout marqué. Nous verrons ça un tout petit peu plus tard. Ça a tout marqué, ça a tout cassé. Et pourtant, pourquoi ? Parce que nous étions responsables. L'homme était responsable et le péché ayant tout cassé, ces bénédictions ne peuvent pas parfaitement s'accomplir. Elles peuvent commencer à s'accomplir, mais pas parfaitement s'accomplir. Quand s'accompliront-elles ? Premièrement, dans une première étape à notre mort, à la mort de ce corps. Alors, Philippiens 1:23 nous rappelle « Il est avantageux pour moi que je m'en aille, que je sois pour toujours avec Christ. » Mais vous voyez, à cause de vous, aujourd'hui, je suis obligé de rester. C'est ce que dit Paul. Hein. Donc, voilà que ces bénédictions vont être... Et ensuite, dans l'éternité, là, eh bien, il y aura... Lisez Apocalypse 21 et 22, vous verrez, tout d'un coup, ça commence par Dieu qui sèche nos larmes et puis il n'y a plus de problème, les bénédictions sont là. Et tout cela se fait en Christ. Pourquoi en Christ ? Nous sommes tous nés, on apprend ça dans Romains, en Adam. Adam, c'était le chef, la tête de nous tous. Nous tous, nous sommes nés en Adam. Or, Adam, vous savez bien, il a péché. Adam, il a désobéi à Dieu. Et quand je dis Adam, je dis bien Adam, je ne parle pas d'Ève. Hein? Ève a été séduite, Adam a désobéi, s'est rebellé. Le rebelle, cherchez pas, dites pas à votre femme, t'es comme Ève, t'es une rebelle. Non, ça marche pas. Le rebelle, c'est Adam. Nous naissons tous de père en enfant pécheur. Parce que Adam a désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné. Et donc, nous recevons ça en Christ, parce qu'en Christ, Christ est venu, c'est le nouvel Adam, celui qui va nous permettre qu'en lui, on puisse hériter de certaines choses. Donc, tout le reste du passage va décrire les bénédictions et nous décrire quelle est la dimension, mais il va aller au-delà, donc on va voir ces bénédictions pour nous, mais ça va être bien plus grand. Nous allons voir les bénédictions, la dimension cosmique du salut que Dieu a pour nous. Donc, on regardera ça, comme je vous ai dit, en trois parties. La première, élue par le Père. Seconde, rachetée par le Fils. Troisième, scellée du Saint-Esprit. Et dans chacune de ces parties, chacune de ces étapes, la structure est la même. Nous voyons premièrement l'énoncé des bénédictions, deuxièmement le but premier des bénédictions et troisièmement le but ultime des bénédictions qui nous sont annoncées. Premier point, donc élu par le Père. Donc, voici le texte. Dans ce texte, que voyons-nous ? Quelles sont les bénédictions ? La grande bénédiction que nous pouvons voir dans ce texte, c'est l'adoption. Élection et adoption. Donc deux bénédictions. Il y a quelque chose qui se passe pas là. Non. Alors, c'est dommage, ça devait surligner en jaune. Élection et adoption. Oui, ben ça le surligne pas. C'est, quand on change l'ordinateur, c'est, ça doit être Nathan qui me fait un truc. Donc, ben, ouais, il n'y a pas le jaune. Oui, mais là-bas, c'est un écran de télé, ça se voit pas non plus. Qu'importe. Donc, vous êtes obligé de me croire ou de regarder l'écran sans les surlignements. Élection et adoption. Notons que l'élection a été décrétée avant la fondation du monde. Ça remonte à loin, avant la fondation du monde. Qui était créé avant la fondation du monde ? Aucun d'entre nous. Si vous considérez que vous faites partie des élus, vous n'étiez pas là avant la fondation du monde. Vous ne méritez rien. Et si ces premières bénédictions, cette première bénédiction d'être élu avant la fondation du monde est arrivée avant la fondation du monde, logiquement, toutes les autres ne peuvent avoir été décidées qu'avant la fondation du monde. Nous verrons après, là, élu par le Père, racheté par le Fils, le fait d'être racheté par le Fils était d'accord pour nous racheter avant la fondation du monde. Et l'Esprit était d'accord pour nous sceller de lui-même avant la fondation du monde. Donc tout ça était décidé avant la fondation du monde. Alors se pose une question, mais quand même, nous élire avant la fondation du monde, c'est bien. Mais est-ce que Dieu avait comme... Pourquoi il a laissé faire sur le péché ? Il aurait pu prévoir autre chose, c'était un bon plan, non ? Meilleur plan que de laisser faire le péché. Alors, à cette question, je vous dirais que c'est justement la question que Satan est venu poser, quasiment la même question que Satan est venu poser dans le jardin d'Éden. Pourquoi Dieu ? Et la réponse a été donnée à Moïse. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a un moment, le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu, et il faut admettre que nous ne comprendrons pas l'ensemble du plan de Dieu pour une chose simple, nous sommes des créatures et il est le Créateur. Et Dieu est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Continuons. Maintenant, je vais quand même vous donner une définition brève et pratique de l'élection. L'élection est un acte de Dieu avant la création par lequel il choisit certains pour être sauvés, non à cause de quelques mérites de leur part qu'ils auraient obtenus d'avance, mais uniquement selon son bon plaisir souverain. C'est donc Wayne Grudem qui donne cette définition sur laquelle, je dirais, un grand nombre de chrétiens sont d'accord. L'adoption, la deuxième bénédiction, reflète le privilège d'un orphelin à qui on propose de rejoindre une famille, ici la famille de Dieu, avec tous les droits associés, héritage, famille, etc. En droit romain, selon mes sources, on pouvait rejeter un enfant un enfant biologique, mais un enfant adopté ne pouvait pas être rejeté. D'où la réponse de César à Brutus, « Toi aussi, mon fils, il l'avait adopté, il ne pouvait pas le rejeter alors qu'il était en train de le poignarder. » Donc, nous voyons encore là un équilibre. Le Fils de Dieu meurt sur la croix, 3 heures de ténèbres où Dieu le juge et le maudit pour nous. Et nous qui sommes adoptés, vous voyez où je veux en venir, Dieu ne nous rejette pas. Dieu nous accueille. Quelle certitude! Vous comprenez pourquoi Paul, quand il nous parle de l'adoption, il est si sûr de lui? Alors, les bénédictions nous sont données en Christ, je vous ai expliqué pourquoi. Alors, quel est le but premier? C'est que nous soyons saints et irréprochables. Ouais, c'est toujours la même chose, c'est pas souligné, tant pis. Alors, être saint et irréprochable, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, ici, nous sommes mis à part. Irréprochables, nous traitons le péché. Si quelqu'un ici a péché et puis qu'il continue, moi si je me mets à continuer à pécher puis que je m'endurcis, ça va aller très mal. À un moment donné, il va falloir que je traite le péché par la repentance. Ça ne veut pas dire aujourd'hui, Dieu m'a pas donné la grâce de ne plus pécher. Je demeure incapable de ne pas pécher, c'est ma nature. Je suis pécheur, incapable de ne pas pécher. Mais par contre, Dieu m'a donné quelque chose. Il me montre le péché, et puis je peux venir vers lui et le traiter par la repentance. Donc voilà, mais ce côté irréprochable, c'est pas fini. C'est que Dieu veut nous amener à lui, que nous soyons devant lui saints et irréprochables, sans péché. Quand je vais mourir, je pourrai dire adieu au péché. Je serai avec Christ pour toujours. Et je pense, ça c'est ma pensée, que si la première chose que Dieu dans le nouveau ciel et la nouvelle terre commence par sécher nos larmes, c'est parce que juste avant il y a le jugement et que nous aurons vu combien nous avons fait de mal au Père. Et là nous serons dans les larmes et il nous dira stop, regarde Jésus, il t'a sauvé. Mais quel est le but ultime? Le but ultime, c'est de célébrer la gloire de sa grâce. Est-ce que vous saviez que la grâce de Dieu était glorieuse? Je l'ai découvert là. Passons à la deuxième grande bénédiction que nous trouvons, rachetée par le Fils. Je vous relis pas le passage. Il est long. Quelles sont les bénédictions que nous trouvons dans ce passage? Alors, trois bénédictions, la rédemption, la révélation et l'héritage. Alors, nous allons d'abord regarder rédemption. Quand on parle de rédemption dans la Bible, il s'agit du paiement d'une rançon. Et là, il nous est dit que Jésus a payé une rançon par son sang. Quand on parle de sang dans la Bible, il s'agit de la mort d'un animal ou d'un homme. Parce qu'en général, le sang, pour l'avoir, on égorgeait. Donc, il restait plus beaucoup de sang après. Donc, voilà la rançon, la mort pour le péché. Le problème, en Adam, nous naissons pécheurs de père en enfant. La solution, un homme sans péché, Christ, Dieu s'incarnant, était la seule victime pure et sans tache pouvant payer cette rançon. Alors nous ne pouvons être rachetés que en Christ, si nous nous mettons dans cette descendance, si nous nous mettons dans cette filiation, si nous devenons enfants de Dieu. Et jusqu'à présent, vous remarquerez que il n'est même pas question d'une action que nous ferions nous. Je pensais tout à l'heure, quand j'entendais ce que Jacques nous a présenté, tout d'un coup j'ai pensé à celui qu'on appelle le bon larron, qui dit « Pense à moi quand tu viendras dans ton règne. » Et que lui répond Jésus, il n'a rien fait lui, il a dit « Tout est foutu. » Et Jésus lui dit, ce soir, tu seras avec moi en paradis. Dieu fait tout. Je continue donc. Nous voyons ici, clairement, nous étions esclaves du péché du royaume de Satan. Christ paye la rançon pour nous libérer, c'est-à-dire qu'il y a un rachat, il rachète un esclave. Étant libres, nous sommes en mesure de rentrer dans notre héritage. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. Le point suivant, c'est que nous recevons une révélation. Quand Dieu se révèle, il le fait d'une manière rationnelle. Il fait appel à notre intelligence et à notre sagesse. Il fait bien sûr aussi appel à nos émotions, mais on a beaucoup tendance aujourd'hui à mettre les choses sur les émotions, et d'ailleurs, c'est pas depuis hier ou avant-hier, depuis le Moyen-Âge, on a commencé à regarder le Christ en croix depuis le Moyen-Âge, en disant regardez comment il souffre, et on a oublié l'œuvre du Père et du Saint-Esprit avec le Fils. Oui, le Fils a souffert, et il faut qu'on en prenne toute la mesure. Mais oui, le Père a souffert, parce qu'il voyait le Fils, il condamnait le Fils, et l'Esprit souffrait, parce que les trois personnes de Dieu étaient en train de s'engager dans la rédemption. Donc je continue, révélation. Donc je vous disais, quand Dieu se révèle, il fait appel à nos pensées. Oh là, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Et on le voit bien ici, dans ce passage, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Cœur, volonté, intelligence, émotion, vie. Par sa grâce, Dieu nous a donc donné intelligence et sagesse pour, premièrement, nous démontrer un salut cosmique. Voilà, en fait, ce que Dieu voulait, c'est rassembler toutes choses sur la terre et dans les cieux sous l'autorité de Christ. Pour mieux comprendre, nous pouvons lire dans Romains, nous savons jusqu'à ce jour que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Dieu avait donné autorité à l'homme sur la création, l'homme s'est rebellé, la création a été abîmée. Aujourd'hui, un certain nombre de gens disent « Oh, on va y arriver, le réchauffement climatique, ça va pas nous toucher ». Alors oui, je fais des efforts avec mes déchets, moi comme je, à mon niveau, j'essaye de moins rouler. Mais la direction que l'homme a prise, c'est d'aller dans le mauvais sens. Je ne suis pas du tout étonné aujourd'hui de voir ce qu'il y a. Chaque génération a laissé une terre en moins bon état à ses enfants qu'elle n'était quand il l'a reçue de ses parents. Et nous voyons maintenant que le but ultime est de servir à la louange de sa gloire. Donc il y a à la fin un service que Dieu veut nous donner et qui est la louange de sa gloire. Donc si je reprends bien et si j'ai bien compté, premièrement c'était célébrer la gloire de sa grâce et ça s'adressait au Père. Deuxièmement, servir à la louange de sa gloire et ça s'adresse au Fils. Et nous sommes aussi scellés du Saint-Esprit. Il n'est pas dit scellés par le Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ça nous permet de comprendre une personne, une des trois personnes de la Trinité vient nous sceller. Elle est là. Nous avons reçu les arts de l'Esprit, nous est-il dit ailleurs. Nous sommes scellés. Il y a le sceau. Alors qu'est-ce que c'est que cette bénédiction ? Scellés du Saint-Esprit. S'il y a une, on peut voir une application lointaine à ce que nous venons de voir, la réunion en Christ de toutes choses sur la terre et dans les cieux. On ne voit pas ça aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui Jésus règne sur la terre, mais il y a des fois on a du mal à le voir. Si on se promène en Ukraine, si on se promène en Afrique, mais partout où on se promène, ça va pas bien. Mais un jour, bien que Jésus règne aujourd'hui et que Dieu fasse ce qu'il veut, un jour, tout cela sera réuni d'une manière beaucoup plus évidente. Alors, scellé du Saint-Esprit. S'il y a une application donc lointaine à ce que toute chose soit réunie en Christ, Paul nous révèle nous en dévoile une pour aujourd'hui. L'union finale en Christ n'est pas encore complètement réalisée, mais déjà tous les croyants sont unis en Christ. C'est un des thèmes principaux de l'Épître. Les Éphésiens non-juifs ont eux aussi cru. C'est ce qu'il nous est dit, puisque là il nous est dit, nous, il nous avait, ça avait été dit précédemment, nous qui avons d'avance cru en Christ. Ceux qui ont d'avance cru en Christ, c'est ceux qui attendaient le Messie. C'étaient les Juifs. Mais maintenant, il parle à des non-Juifs. Donc aux non-Juifs, il dit, vous aussi, vous avez tout reçu avec nous. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Les non-Juifs ont cru eux aussi. Comment ils ont cru? Ils ont entendu une parole de vérité. Ils ont entendu une bonne nouvelle qui était la bonne nouvelle de leur salut. Et troisièmement, l'héritage est aussi celui des païens. Donc, voilà que déjà nous voyons quelque chose que Christ est en train d'unir en lui, c'est le fait que nous qui croyons, nous sommes réunis. Nous croyons dans le même Dieu que les Juifs et nous avons le même Messie que les Juifs. Et C'est un don qui nous est fait. Deuxième point, nous avons reçu par la bonne nouvelle, une bonne nouvelle de salut. Et troisième point, l'héritage est aussi pour nous. Et alors, nous pouvons nous dire, mais maintenant, voilà, nous avons cru, et enfin, voilà quelque chose que je peux faire. Jusqu'à présent, il n'y avait que Dieu qui agissait. Eh ben non. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous disent Romains 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le « cela » que vous avez ici renvoie aussi bien à la grâce qu'à la foi. Donc, ça vient encore pas de nous, mais c'est de Dieu. Et ici, pour vous achever, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né, et c'est là que nous comprenons Adam, le premier, son Fils, le premier, le premier-né de plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, etc. Quel est le but premier? C'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit ou gage de notre héritage pour la rédemption. Dominique Anger note dans son commentaire sur Éphésiens, à l'époque, on parlait d'un sceau. On marquait d'un sceau les esclaves et les troupeaux en signe d'appartenance et pour prévenir le vol. Le Saint-Esprit en nous vient attester que nous sommes enfants de Dieu, nous lui appartenons. Il nous assure que nous sommes sauvés, qu'il nous garde. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mon premier pasteur m'a raconté que quand il allait visiter des personnes âgées qui étaient très proches de la mort, ils allaient les voir et puis prier avec elles. Et à un moment donné, très fréquemment, il m'a dit, il y avait un doute. Tout d'un coup, la personne disait, mais pasteur, est-ce que je suis vraiment sauvé? Et en général, le pasteur n'avait besoin de rien dire. La personne se mettait à sourire et lui répondait, mais oui, il est fidèle. C'est pas à cause de nous, c'est à cause de lui. Et quel est le but ultime? Puisque nous avons vu, quel est le but ultime? Célébrer sa gloire. Les réformés ont donné cette expression, soli deo gloria, pour la seule gloire de Dieu. Je crois que c'est là la réponse que nous avons à tous les pourquoi. Dieu a fait tout ça pour sa seule gloire. Alors, ça peut nous sembler bizarre. Ne répondez pas comme une personne dans un groupe de maison où j'étais qui nous a dit « je ne pense pas que Dieu puisse avoir un tel ego. » Ouais, j'ai été gêné parce que Dieu est le seul être qui puisse être glorifié. Alors, que conclure? Paul a lui-même donné une réponse. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Non, il n'est pas inéluctable que même si le décret de Dieu a défini les élus une fois pour toutes avant la fondation du monde, il n'est pas inéluctable et nous ne devons pas rentrer dans une manière de penser qui dirait « Ah ben moi, j'en fais pas partie ». D'abord parce que nous ne sommes pas Dieu et nous ne le savons pas. Et puis que Dieu a donner un temps aujourd'hui pour que nous entendions sa voix, que nous, pour l'annonce de l'Évangile. Nous devons continuer à annoncer l'Évangile parce que c'est comme ça que les gens viennent à Christ. Je vais vous dire, je professais un athéisme fondamental jusqu'au jour où j'ai entendu « Bénissez l'Éternel, vous serviteurs de l'Éternel », psaume 134. Quand le psaume s'est fini, je n'étais plus un athée. Il est très court. Hein? Je n'étais, voilà, juste ça, cette parole-là. Donc aujourd'hui, ne présumons pas. S'il y a quelqu'un parmi vous qui se dit, oh, mais moi j'en fais pas partie, ne présume pas, même toi tu ne le sais pas. Donc, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Voilà, je vous remercie de votre écoute.